Bonsoir, vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Entre Femmes, Radio Zone, nos nouvelles. Pour commencer, bien sûr, un grand bonjour à nos amis séquestrés par la police fédérale. Cela fait exactement 2 mois qu'un de nos amis est en détenu. Il est toujours à la prison de Bois-Mermet. Un grand salut. Et d'ailleurs, ce n'est pas de nombreuses personnes se sont réunies à partir de 17h30 pour leur envoyer leur solidarité, puisqu'une manifestation est appelée à ce moment même à la place Neuve, 17h30. Vous pouvez la rejoindre. Elle se terminera vers la gare. C'était donc le 16 novembre, manifestation pour dire que cela fait 2 mois exactement que notre ami est détenu toujours à la prison de Bois-Mermet. Je vous rappelle les faits. Le 16 septembre, une femme et un homme ont été séquestrés par la police fédérale, placés en détention préventive. Au Tessin, quelques jours plus tard, une autre femme et un autre homme étaient séquestrés et incarcérés à Berne. Selon Mme Del Ponte, procureure de la Confédération, ces 4 personnes sont soupçonnées d'avoir été en relation au début des années 80 avec des membres du groupe Carlos. Ces accusations s'appuient sur les services secrets hongrois et les fiches de la police de l'Allemagne de l'Est. Les 2 séquestrés de Genève sont connus comme des militants généreux, engagés dans de nombreuses actions en faveur des femmes et contre les lobbies de l'armée et du nucléaire. Après 5 semaines de détention, la genevoise a été relâchée, mais les 3 autres restent soumis à l'arbitraire d'une procédure qui viole la Convention des droits de l'homme. Le genevois reste enfermé à Lausanne, où il a été transféré à Bois-Mermet le 16 novembre. Il aura fait 2 mois à l'ombre. Rappelons que plus de 1 000 personnes ont déjà défilé le 8 octobre à Genève, en demandant qu'on arrête Malville et pas les antinucléaires, que devant les prisons de Genève, Lausanne et Berne, des démonstrations de solidarité ont eu lieu, que la tour du sud de la cathédrale à Genève a été occupée par un nouveau style de guet, qu'à Bâle, Madame Del Ponte a été désavouée par des femmes qui l'avaient invitée à parler sur le thème des femmes et de la mafia, qu'à Zurich, au Tessin, à Genève, on a fêté en musique et en parole la solidarité avec les séquestrés, qu'à Lyon, les antinucléaires se sont mobilisés et ont occupé le consulat suisse, que des journalistes ont protesté, que les juristes ont déposé plainte, que les postiers croulent sous le courrier contre le ministère public. Plus de 1 000 personnes ont signé une pétition. Mais la police fédérale séquestre. Madame Del Ponte blanchit les fiches de la Stasi. Le tribunal fédéral avalise. C'est pourquoi l'Assemblée pour la libération des séquestrés, qui est soutenue par la plupart des groupes politiques et militants de la scène alternative et de gauche à Genève, ont appelé à cette manifestation qui a commencé à 17h30, place Neuve, sous le slogan « Pas besoin de l'ombre des prisons pour défendre nos idées ». 2 mois, ça suffit. Et nous envoyons une grande salutation à notre ami, toujours détenu à Bois-Mermet. Au Sri Lanka, un guerre des veuves pour l'élection présidentielle. Les électeurs ont élu Chandrika Kumaratunga à la tête du pays. Elle avait été leur premier ministre. C'est une grande majorité, puisque 62% des suffrages ont porté donc la nouvelle première ministre, Chandrika Kumaratunga, à la tête du pays. Un vote pour la paix. Chandrika Kumaratunga, premier ministre sri-lankais, a donc reporté l'élection présidentielle avec plus de 62% des suffrages. Elle a affirmé que sa victoire était celle de la démocratie et de la paix. L'ampleur de son succès devrait faciliter la reprise des négociations de paix avec les séparatistes tamouls. Âgée de 49 ans, Madame Kumaratunga sera la première femme à accéder à la tête du Sri Lanka. Elle a obtenu donc 63% des suffrages. Elle est la fille de 2 anciens premiers ministres. Premier et première ministre, elle a perdu son père et son mari dans des attentats terroristes. Une autre femme était sa rivale, c'était la candidate du Parti national unifié, l'UNP. Il s'agissait de Srima Dissanayake, qui est la veuve, elle, du candidat Gamini Dissanayake, tué le 24 octobre à Colombo lors d'un attentat suicide. Madame Kumaratunga a immédiatement nommé sa propre mère première ministre. Devenue présidente et donc chef en tête de l'armée et des forces de sécurité, Madame Kumaratunga dispose désormais d'une marge de manœuvre nouvelle. Les analystes s'attendent à ce que la nouvelle présidente reprenne très vite les négociations avec les Tigres de libération de l'Elam Tamoul, en adoptant une attitude plus ferme, n'excluant pas nécessairement l'option militaire. En Iran, la condition des femmes est dramatique. Les suicides féminins se multiplient. En 1993, on en comptait plus de 2500 pour la seule province de Khorasan, selon un quotidien iranien. C'est le cas, par exemple, de Omad Arabi Terrani, qui s'est publiquement immolée par le feu à Téhéran. Cette psychiatre de 54 ans, mariée, mère de deux filles, militait depuis sa plus tendre jeunesse contre toutes les formes de totalitarisme. Destituée de son poste de professeur d'université pour n'avoir pas mis sa révolte en sourdine, Omad Arabi appartenait au mouvement de protestation des femmes. Près de 15 000 personnes ont assisté aux obsèques de Omad Arabi, mais les quotidiens iraniens n'ont pas consacré le moindre entrefilet à ce suicide. En Roumanie, nombre record d'avortements. Selon des sources gouvernementales, le nombre d'avortements atteint des chiffres records. Lors du premier trimestre 93, 312 000 avortements ont été enregistrés contre 123 000 naissances. Aux États-Unis, une femme obtient le droit de résidence car ses enfants étaient menacés de mutilation sexuelle. En avril, Lydia Olunuro, une femme nigériane vivant depuis 86 illégalement aux États-Unis, a reçu son permis de résidence après qu'un juge de l'État de l'Oregon ait pris la décision de ne pas la renvoyer au Nigeria car ses filles de nationalité américaine âgées de 5 et 6 ans risquaient de subir des mutilations sexuelles. Selon les autorités américaines, 50% des femmes au Nigeria subissent ce genre de pratiques. En France, selon un sondage réalisé ce printemps sur un échantillon représentatif de la population française, 55% des Français et Françaises seraient favorables à l'élection d'une femme à la présidence de la République. Parmi eux, la majorité se situe à gauche, bien sûr. Par ailleurs, 72% des personnes interrogées accorderaient volontiers leur confiance à une première ministre et 80% à une députée. Les sondés considèrent que certaines ministres ont largement contribué à l'amélioration de l'image de la femme dans la vie politique. Ils rendent principalement hommage à Simone Veil, Françoise Giroud, Martine Aubry, Michel Barzac, Ségolène Royal et, une fois n'est pas coutume, à Edith Cresson. L'ONU se penche sur son propre fonctionnement. Un an après sa création, la commission spéciale UN Watch publie ses résultats de sa grande enquête sur le fonctionnement de l'ONU. La première chose qu'on souligne, c'est que la place des femmes n'est pas tout à fait représentative. C'est donc un cheval de bataille de l'UN Watch, la condition des femmes au sein de l'organisation. L'égalité homme-femme est inscrite dans la Charte des Nations Unies. Or, sur 45 sous-secrétaires généraux, 6 seulement sont des femmes. Plus grave, sur les 23 assistants du secrétaire général à l'extérieur du siège new-yorkais, il n'y a aucune femme. Celles qui bénéficient d'une position élevée sont généralement à des postes techniques, rarement politiques. « Je suis contre les quotas », dit le représentant de la Commission, mais il y a quand même 50% de femmes dans le monde. L'OMS, elle, se penche sur le problème de l'avortement. L'avortement à risque est l'un des principaux responsables des 500 000 décès maternels enregistrés chaque année dans le monde. L'Amérique latine et les Caraïbes détiennent le record en la matière. L'Organisation mondiale de la santé va examiner ces prochains jours à Bogota une série de projets de recherche pour renforcer l'information et la prévention. Cela fait suite à la conférence du Caire qui, je vous rappelle, avait pour la première fois posé le problème de l'avortement comme un problème de santé publique. Premier procès contre le tourisme pédophile. L'auteur du guide Spartacus va être jugé en Belgique. C'est un procès pour incitation au tourisme homosexuel et à la pédophilie qui s'ouvrira le 23 novembre dans le nord de la Belgique. Procès contre John Stamford, auteur et coéditeur du guide du tourisme sexuel Spartacus. Un guide de tourisme homosexuel couvrant quelques 150 pays et vendu à plus de 60 000 exemplaires par an, édité depuis 24 ans. Par le biais d'une série de codes, les lecteurs pédophiles du guide sont informés des endroits où trouver une jeune clientèle, entre guillemets le mot enfant n'apparaissant jamais. Ce procès sera le premier pour tenter de mettre fin à ces agissements maintes fois dénoncés par les organisations de défense des enfants. Réunion des femmes mères des deux côtés du Salève. Elles sont effectivement 5 femmes, mères, M-A-I-R-S, c'est-à-dire responsables de leur commune. C'est à Verrier qu'elles se sont rencontrées. La réunion a eu lieu à l'initiative de la maire de Verrier, Adriane Ronga. Puis il y avait également Béatrice Luchère, maire de Troinet, Malou Bartassa, maire de Beltrami, et qui ont donc rencontré les maires, leurs collègues maires de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire Alice Beltrami, maire des Trembières, et Renée Magnin, maire de Gaillard, cinq femmes donc maires, mères également de famille, et entre autres problèmes, elles ont posé très vite comme une évidence la difficulté de jongler entre une carrière et la famille, reproche classique des enfants. Et entendu par certaines, « Maman, depuis que tu es mère, on n'a plus de mère. » Elles ont également parlé des problèmes de leurs cinq communes et de la manière de faire des actions communes à travers les frontières. En Valais, sous la pression des femmes, le Parti démocrate chrétien se décide à changer. Analyser les causes de la crise et de l'érosion qui frappe le parti, c'est le but que s'est assigné un groupe de travail informel créé à l'initiative des femmes démocrates chrétiennes. Ces dernières étaient déçues du résultat des élections de l'année dernière au Grand Conseil, 6 femmes députées élues seulement sur les 75 parlementaires PDC. Ce fut le point de départ d'une réflexion qui a abouti à un rapport intitulé « DC2 ». Ce document, présenté par la présidente des femmes démocrates chrétiennes, Monique Jacquemin, dresse en premier lieu un bilan statistique des résultats électoraux qui met en évidence un fort recul du parti. Pour renverser cette tendance, il faut mieux intégrer les jeunes, les aînés, mais surtout les femmes dans le parti, répond la commission qui pose l'introduction des quotas féminins dans les conseils et commissions comme solution. Le groupe de réflexion exige également qu'on propose au moins une candidature féminine pour la succession à un poste occupé par une femme. Et parmi les mesures à court terme, il demande que le PDC présente une candidate aux prochaines élections au Conseil d'État, requête assez spectaculaire, car si elle obtient l'aval de la base, cela signifie que le Valais aurait une conseillère d'État en 1997, grande première. À Genève, l'égalité des sexes a du plomb dans l'aile. Dans l'université, des féministes lancent une pétition et déposent une motion. Au sein de l'université, la promotion de l'égalité femmes-hommes patine. C'est du moins l'avis de la coordination des associations féminines genevoises, le CAFG, qui vient de lancer une pétition et de déposer, grâce à ses relais parlementaires, une motion au Grand Conseil sur le sujet. Cette dernière est au menu des séances du 17 et 18 novembre. Grief, le bilan de 3 ans d'application de la loi sur l'université est alarmant quant aux clauses sur l'égalité des sexes. Côté quantitatif, les motionnaires constatent que peu de femmes professeurs ont été nommées. Autre problème, le droit de plainte prévu par la loi, il permet à une candidate s'estimant injustement évincée de faire recours, mais la commission se déclare la plupart du temps incompétente pour juger les candidatures. Même insatisfaction au niveau des mesures qualitatives, la déléguée aux questions féminines de l'université, madame le professeur Annelise Head, est critiquée. Alors que celle-ci est chargée de soutenir le développement des études femmes, aucun nouvel enseignement n'a été mis en place depuis sa nomination. On reproche aussi à Mme Head de n'être pas intervenue lorsque la faculté de psychologie et de l'éducation a coupé 2 heures de cours sur les 4 consacrés aux questions féminines. À l'heure où la conférence des universités suisses institue les études femmes comme priorité pour les 4 ans à venir, Genève risque de rester à la traîne, estime Edmé Olanier, enseignante à la FAPC. En sollicitant maintenant le Grand Conseil, la coordination devance le rapport d'évaluation prévu pour 1995. Cochons toute catégorie pour terminer ces nouvelles. Nous l'accordons au ministre suisse de la Justice et Police, car en Suisse, les affaires douteuses se règlent vraiment à l'amiable, surtout dans ce département. C'est le cas, par exemple, dans le cadre de ce qu'on a appelé l'affaire Hunziker. Vous vous souvenez, Hunziker, c'était le directeur de l'Office fédéral des étrangers qui, c'est bizarre, avait laissé entrer, donné un visa pour la Suisse, pour laisser entrer le Rwandais Kabuga, responsable de la radio Mille Collines et à ce titre instigateur de nombreux massacres. Et même au moment où, après 2 mois, il a fallu l'expulser, M. Hunziker lui a laissé quand même passer à la banque, ce qui fait que M. Kabuga est parti avec 5 millions de dollars en poche. Comme c'est gentil. Bon, l'affaire a quand même fait trop de bruit, M. Hunziker doit démissionner. Eh bien, qui arrive à le remplacer? Eh bien, un autre ex-démissionnaire. Il s'agit de M. Peter Hubert. Vous vous souvenez, M. Peter Hubert qui avait lui été suspendu à la suite de l'affaire de la police fédérale politique. En effet, Hubert, ancien patron de la Popo, était responsable d'avoir pu faire ficher plus de la moitié, 1 million, plus d'un presque 1 million de personnes en Suisse avaient été fichées par les services de M. Huber, qui avait donc dû être suspendu. Et le voilà donc de retour. Il était déjà assistant de M. Hunziker depuis un an et même remplaçant du directeur. Peter Huber, donc, qui en tant que chef de la Popo avait fait ficher 500 000 d'étrangers et d'étrangers, pourrait ainsi devenir directeur de l'Office fédéral des étrangers. Comme c'est gentil, il a, semble-t-il, été très efficace dans le secteur sécurité intérieure et immigration, équipé comme il se doit de systèmes informatiques de pointe. Vous voyez, en Suisse, les fiches ont encore des très, très beaux jours. Pour terminer ces nouvelles, quelques rendez-vous. Déjà tout de suite, précipitez-vous à la manifestation qui vient de partir à 17h30, place 9. Manifestation pour exiger la libération des derniers séquestrés de la police fédérale. Elle a donc été appelée ce mercredi à 17h30. Vous pouvez peut-être encore la rattraper. Sinon, il y a également une manifestation contre les mesures de contrainte. Manifestation appelée par la coordination des jeunes qui aura lieu ce samedi à 14h. Autre rendez-vous, 18 novembre, il y a une conférence sur le thème « Femmes, naissance et pouvoir », conférence avec Jeannette Balascas, fondatrice de Naissance Active. Cette conférence sera suivie le 19 novembre par des ateliers toute la journée sur le thème de la naissance et l'eau ou de la médecine de la confiance avec toujours Jeannette Balascas et le docteur Françoise Berthoux, médecin homéopathe. Autre rendez-vous un peu plus lointain, mais notez-les déjà. Le 25 novembre, le Comité pour une véritable assurance maternité appelle à une journée nationale d'action pour cette assurance maternité maintenant. 16 semaines ensemble, un droit pour la mère et l'enfant. Nous appelons toutes les femmes et tous les hommes à se mobiliser pour faire en sorte que la future loi permette la mise en œuvre d'une véritable assurance maternité sans plus tarder. Au programme de la journée, un rassemblement de 13h à 14h devant la maternité avec des stands d'information. La maternité se trouve donc vers le boulevard de la Cluse. Le rendez-vous est donné à la rue Alcide Yenser. Et à partir de 18h30 jusqu'à 21h, une soirée d'information et de débat qui aura lieu à l'Université ouvrière genevoise à la rue du Cercle. C'est les nouveaux locaux de l'UOG dans le quartier des Grottes avec la présentation du projet. La présentation d'un projet d'exposition itinérante pour une véritable assurance maternité, exposition magnifique puisqu'elle est sous forme d'un grand étendage de linge, suivi d'un exposé de Béatrice Desplan, secrétaire centrale de l'Union syndicale suisse, sur le thème de l'assurance maternité, quel contenu, quel financement. Donc, premier rendez-vous à 13h devant la maternité de Genève, deuxième rendez-vous à 18h30. Dans les locaux de l'UOG, c'est le 25 novembre, journée nationale d'action pour une assurance maternité maintenant. Autre rendez-vous, le 26 novembre, c'est le collectif 14 juin qui organise de nouveau un marché aux puces fuchsia. C'est une manière de se faire des sous pour financer ses activités, la nouvelle campagne, entre autres, contre le relèvement de l'âge de l'AVS des femmes et puis aussi pour que cette recette soit attribuée en partie à Medica, centre thérapeutique pour femmes victimes de violences de la guerre en Bosnie. Donc, vous pouvez amener tous vos objets attrayants en bon état. Si vous déménagez, videz des appartements, etc. Donc, vous pensez au collectif 14 juin. Vous téléphonez au 734 43 86. Je rappelle, 734 43 86. Sinon, vous venez acheter ce dont vous avez besoin le samedi 26 novembre au centre de loisirs des Astères. J'aimerais également vous rappeler que l'Organisation des femmes en noir, qui chaque mois manifeste pour protester contre la guerre en ex-Yougoslavie et protester contre l'horrible purification ethnique et tous les crimes contre la dignité des femmes, qui cette organisation reste active, et son assemblée générale aura lieu le mercredi 30 novembre au centre des loisirs des Astères. Rappelons que donc il y a toujours des rassemblements chaque mois pour rappeler que la guerre continue en ex-Yougoslavie. Et puis j'aimerais encore vous signaler qu'une Un colloque aura lieu en décembre sur le thème La religion, un frein à l'égalité. Ça a lieu à Lausanne, mais vous devez déjà vous inscrire. Je vous signale immédiatement le numéro de téléphone pour vous inscrire. Je le cherche. Voilà, vous téléphonez au 021 323 64 65. Je vous rappelle, 021 323 64 65. Attention, le délai d'inscription est fixé au 15 novembre. Vous vous dépêchez donc de téléphoner pour, si vous voulez participer à cette session de deux jours, du 1er au 3 décembre, sur le thème « La religion, un frein à l'égalité ». Et puis, pour terminer, F-Information vient de sortir une brochure sur le thème du divorce, les conséquences financières pour les femmes. Nous donnons la parole aux personnes qui viennent de rédiger cette brochure. Brochure écrite à trois voix, Jeannie Corret, juriste, Sophie Devec, Haddad et Bertrand Reich, avocat. Alors, pourquoi vous avez eu cette nécessité d'écrire cette brochure? Est-ce qu'il y a un véritable besoin de connaissances sur les aspects financiers du divorce?
Alors, je crois qu'il y a un immense besoin d'informations, pas seulement sur les aspects financiers, mais sur les aspects juridiques aussi, sur les conséquences du divorce. Si on a choisi de préparer cette brochure, c'est qu'on avait constaté lors d'une enquête sur les difficultés financières des femmes à Genève, qui avait été entreprise avec le Bureau de l'égalité et qui a été publiée en 91 sous le titre « Femmes pauvres dans villes riches », on s'est rendu compte qu'il y avait un lien assez net entre pauvreté et divorce. En effet, la moitié des femmes interrogées lors de cette enquête, il y en a eu 413, étaient séparées et divorcées, donc connaissaient des difficultés financières. Et une grande majorité d'entre elles attribuaient leurs difficultés financières à la rupture du couple. Donc c'est un peu pour donner suite à cette enquête qu'on a décidé de faire une information accessible à la fois pour les femmes elles-mêmes et pour faciliter l'accès, on a mis à la fin un petit glossaire qui explique les termes de jargon juridique. Ces termes ont été relevés par une personne non juriste, justement, qui a lu la brochure. Mais cette brochure est aussi destinée aux praticiens du divorce. On a envie d'attirer leur attention sur ces problèmes financiers spécifiques des femmes. Et on leur met à disposition aussi des éléments qui permettent de calculer une compensation équitable pour en fait, les pertes qu'elles subissent dans le divorce.
Alors justement, ces pertes, elles pourraient être compensées par la pension alimentaire versée par le mari pour elles-mêmes ou pour leurs enfants. Mais peut-être, Sophie Devec, vous nous expliquez un peu mieux quelles sont justement les conséquences immédiates pour une femme au niveau financier du divorce.
Donc, la conséquence principale, c'est qu'au niveau des cotisations de prévoyance sociale du mari, toutes les cotisations qui ont été versées par l'ex-mari lui reviendront à lui uniquement, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun droit sur ses cotisations après le divorce. La pension alimentaire qui sera fixée en faveur de l'ex-femme est censé pouvoir compenser cette perte des expectatives liées à la prévoyance professionnelle. Malheureusement, il est assez rare que les revenus familiaux permettent effectivement de compenser cette perte. Il suffit souvent uniquement à couvrir les besoins immédiats des deux nouveaux foyers, voire même ils ne suffisent pas du tout à couvrir ces deux foyers. Donc ça, c'est la perte essentielle. Il faut aussi savoir que très souvent, les femmes, pendant le mariage en Suisse, travaillent peu ou ne travaillent pas du tout. Elles ont donc des revenus beaucoup plus limités et elles se trouvent aussi dans des postes peu évolutifs puisque le travail à temps partiel n'est toujours pas encore très valorisé en Suisse. Après le divorce, elles ont encore très souvent la garde des enfants, ce qui ne leur permet pas d'améliorer leur situation professionnelle. Elles doivent souvent continuer à travailler à temps partiel et se retrouvent encore une fois dans des postes peu évolutifs. Donc il est très important que la femme, au moment du divorce, prévoit vraiment comment est-ce qu'elle va se réinsérer professionnellement, si possible qu'elle fasse un projet de réinsertion, de formation, qu'elle puisse indiquer au juge combien de temps elle aura besoin et quels moyens elle a besoin pour réussir sa réinsertion.
Alors, il y a une première conséquence immédiate de baisse immédiate de revenus, mais cette conséquence peut être aussi à plus long terme, au moment justement de la retraite.
Voilà, c'est ce que je disais. Donc, la femme perd tout droit aux cotisations du mari. Donc, comme elle n'a pas cotisé pendant le mariage, si elle ne travaillait pas ou très peu, si elle travaille à temps partiel, au niveau de la retraite, elle aura droit à une rente extrêmement minime, voire une rente minimale. En 1995, donc dès l'année prochaine, entrera en vigueur une nouvelle disposition qui permettra, dans certaines conditions, au juge d'attribuer à la femme une partie des cotisations, disons du capital du deuxième pilier. Mais c'est encore assez limité dans la mesure où il faudra déjà que le mari soit condamné à payer une pension à la femme en vertu d'un article qui s'appelle l'article 151 du Code civil. Cette pension basée sur l'article 151 suppose que la femme ait pu prouver que le mari ait fait une faute. Donc il faut que cette femme prouve cette faute et c'est uniquement cette condition-là qu'elle aura droit à une partie du deuxième pilier du mari.
Bertrand Reich, vous pensez que les femmes sont généralement peu armées pour, au moment du divorce, se défendre sur les questions financières?
Oui, je crois que c'était un des intérêts de la brochure, c'est qu'on constate que les femmes sont peu armées à deux niveaux. D'abord au niveau de l'information, elles ne disposent pas des informations suffisantes, mais de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pas d'inégalité parce que les hommes ne sont pas non plus très armés ou très bien informés. Mais c'est surtout au niveau psychologique ou sentimental, on constate que, d'une manière générale, la femme préfère régler les problèmes plutôt que les amplifier et puis souhaite trouver une solution rapide parce qu'elle vit souvent très mal le divorce. Donc elle est prête à renoncer à un certain nombre de choses en se disant « ce qui est important, c'est que ça se passe bien ». Et puis la réalité est tout autre, parce qu'en renonçant à certains droits, elle obtient certainement le divorce rapidement, mais ensuite, elle et les enfants, lorsqu'il y en a, se trouvent dans le dénuement. Donc il est très important que, dans le cadre de la procédure de divorce, et au moment de préparer celle-ci, la femme établisse son budget, même si c'est très difficile, ou établisse un budget prévisionnel, et puis aille une idée de quels sont ses besoins donc actuels, quels seront ses besoins à moyen terme, quelles sont ses possibilités à elle de trouver un emploi, quelles sont ses possibilités de réinsertion. Mais il est très important que dans le cas du divorce, les femmes soient un peu plus matérialistes.
Et puis, très concrètement, la loi genevoise autorise, je crois, par un biais, les femmes de toucher le chômage.
Oui, en fait, c'est même une loi fédérale, puisque le chômage est réglé par une loi fédérale, qui prévoit effectivement une exception pour un certain nombre de cas, dont les divorces. Donc, un conjoint divorcé a la possibilité, dans l'année qui suit le jugement de divorce, de demander des indemnités de chômage, même si cette personne n'a pas travaillé le minimum de 6 mois qui est requis dans les 2 ans qui précèdent la demande. Donc, si cette personne était simplement au foyer, sans revenu, elle peut quand même avoir des droits à des indemnités de chômage qui seront calculées non pas en fonction d'un salaire, puisqu'il n'y en avait pas, mais en fonction de son niveau de formation. Et puis, cette personne pourra aussi profiter des cours qui sont financés par le chômage.
Alors, c'est une brochure très pratique qui s'adresse aux femmes, bien sûr, qui vont divorcer, aux hommes aussi, et aussi aux praticiens pour qu'ils soient plus sensibles à toutes ces questions financières qui sont liées au divorce. Où est-ce qu'on peut obtenir cette brochure?
Alors, cette brochure est éditée donc par F Information. On peut la commander donc à F Information par écrit case postale 125 1211 Genève 7. Par téléphone au numéro 740 31 00.
Thank you. Thank you.